Deuxième dimanche du temps du carême, et je vais m'arrêter sur un texte que j'aime beaucoup, parce qu'il est la preuve de ce que je vous ai rappelé maintes et maintes fois, que le Nouveau Testament s'enracine profondément et presque verset par verset dans l'Ancien Testament. Nous avons ici, dans ce beau texte de la Genèse, la préfiguration de ce que sera la Pâque du Christ dans le Nouveau Testament. Alors, un peu d'histoire rapide. À l'époque d'Abraham, lorsque deux chefs de tribu faisaient alliance, ils accomplissaient tout un cérémonial qui est du reste décrit rapidement ou succinctement dans le texte de la Genèse. Ils prenaient des animaux, ils les coupaient en deux, ils les partageaient, écartelaient. C'était là le signe de ce qui attendait celui des contractants qui ne respecteraient pas ses engagements. Autrement dit, qu'il me soit fait ce qui a été fait à ces animaux. C'est-à-dire coupé en deux. Si je ne suis pas fidèle à l'alliance que nous contractons aujourd'hui. Alors, les contractants passaient tous les deux entre les morceaux, pieds nus, dans le sang, etc. Ils partageaient d'une certaine manière le sang, c'est-à-dire la vie, faut pas l'oublier, hein. Et ils venaient en quelque sorte, ils devenaient consanguin, entre guillemets. Alors, nous avons une précision ici. Pourquoi cette précision que les animaux devaient avoir 3 ans? Bien, tout simplement parce que les mamans, à cette époque-là, allaitaient généralement leurs enfants jusqu'à 3 ans. Et ce chiffre était donc devenu un chiffre symbolique. Il l'est, du reste, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Symbolique de quoi? Ben, d'une certaine maturité. L'animal de 3 ans était censé être adulte. Alors voilà donc que Abraham accomplit les rites habituels des alliances, mais la grande différence ou distinction qu'il y a, c'est cette fois-ci une alliance avec Dieu. Alors tout est semblable aux habitudes en apparence, mais aussi pourtant tout est différent. Précisément parce que pour la première fois de l'histoire humaine, l'un des contractants, c'est Dieu. Tout simplement. C'est Dieu lui-même. Alors je passe sur ce qu'il y a de semblable. Abraham prit tous ses animaux, les partagea, etc. Il les écarta en deux, comme les rapaces descendaient sur les morceaux. Bon, patati, pataquès, si je puis dire. Cela dit, la mention des rapaces est intéressante. Abraham les écarte parce qu'il les considère comme des oiseaux de mauvais augure. Et cela nous prouve que le texte est donc très ancien. Et Abraham va découvrir le véritable Dieu, mais bon, tout ça est entaché de superstition. Il faut vraiment là faire l'effort de se replacer dans le contexte. Par contre, ce qui est beaucoup plus intéressant, à mon sens, et inhabituel, c'est ceci. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux s'empara d'Abraham. Une sombre et profonde frayeur le saisit. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les quartiers d'animaux. Alors, il y a ce sommeil mystérieux. Le texte parle de sommeil mystérieux. Et ce n'est pas le mot du vocabulaire courant, si je puis dire. C'était déjà celui employé pour désigner, souvenons-nous, dans les chapitres de la Genèse, les premiers chapitres de la Genèse, pour désigner le sommeil d'Adam pendant que Dieu crée la femme. Donc il y a là une manière de nous dire que l'homme ne peut pas assister à l'œuvre de Dieu quand l'homme se réveille, Adam ou Abraham. C'est donc une aube nouvelle, une création nouvelle qui commence. Ça qui est intéressant sur le plan spirituel et théologique, surtout, bien sûr. Et une manière aussi de nous dire que l'homme et Dieu ne sont pas à égalité dans l'œuvre de la création. Ça, c'est important à noter. Comme toujours dans l'Ancien Testament, mais comme dans le Nouveau, c'est pareil, c'est Dieu qui a toute l'initiative. Il suffira à l'homme de faire confiance. Et je cite les textes, « Abraham eut foi dans le Seigneur, et cela lui fut compté comme justice. Un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les quartiers d'animaux. » Alors nous savons très bien, là aussi on le rappelle très souvent, que la présence de Dieu est symbolisée par le feu dans la Bible. Depuis le buisson ardent, pour ne citer que celui-ci, ajoutons la fumée du Sinaï, la colonne de feu qui accompagnait le peuple de Dieu pendant l'Exode dans le désert, jusqu'aux langues de feu dans le Nouveau Testament au moment de la Pentecôte, on voit bien que, tant dans l'Ancienne Alliance que la Nouvelle Alliance, cette notion de feu, de brasier, de flamme ou de flammèche est omniprésente. Ça, c'est bien, bien clair. Alors Dieu va promettre deux choses à Abraham, une descendance et un pays. Alors il faut ici être bien clair et bien franc. Moi j'ai une grande admiration pour Abraham, parce que c'est une promesse, cette terre qu'il va recevoir, qui lui est promise, cette génération aussi nombreuse que le sable sur le rivage, cette promesse est adressée à un vieillard sans enfant. C'est ça qui est surprenant. Mais ce n'est pas la première fois que Dieu fait cette promesse. Et pour l'instant, Abraham n'a pas vu l'ombre d'une réalisation. C'est là la foi d'Abraham. C'est-à-dire qu'il a attendu, 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 et que rien ne s'est réalisé depuis des années et des années. Il marche, et marche encore, en s'appuyant sur quoi ? Sur la seule promesse de Dieu, jusqu'ici inconnue pour lui. Rappelons-nous le tout premier récit de sa vocation. « Va pour toi, pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation. » Au chapitre 12, verset 1 de la Genèse. Et donc c'est depuis le début, ce pauvre Abraham, depuis ce jour-là, le texte biblique noté, l'extraordinaire foi de l'ancêtre qui était parti comme ça. Est-ce que nous le ferions ? Non, moi je ne le ferais pas. Tout simplement, sans poser de questions. C'est ça que je trouve admirable et qui presque me mettrait les larmes aux yeux. Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit. Et il eut foi dans le Seigneur. Et le Seigneur estima qu'il était juste. Du reste, entre parenthèses, c'est une des premières apparitions du mot « foi » dans la Bible. Et donc, l'irruption, au travers du personnage d'Abraham, l'irruption de la foi dans l'histoire des hommes. Notons pour les spécialistes que le mot « croire » en hébreu vient de la racine « man », d'où vient le mot « Amen, qui signifie oui, j'y tiens fermement, hein, oui, j'y crois fermement, tenir fermement, parce que croire, c'est tenir, faire confiance jusqu'au bout, même dans le doute, le découragement ou l'angoisse. Voilà l'attitude d'Abraham qui nous est donnée à méditer en ce deuxième dimanche de carême et qui doit être la nôtre durant ce carême. Nous aussi, nous allons peut-être passer par des moments de doute pendant la Semaine Sainte. Comment se fait-il que le Fils unique de Dieu soit traité comme un malfaiteur, crucifié, et on l'a bien vu, abandonné de tous ses amis, puisqu'il n'y avait pratiquement personne au pied de la croix. Eh bien, il y a donc un parallèle très émouvant à faire entre la personnalité d'Abraham et la personnalité même du Christ. La foi, c'est ce que nous venons d'en parler, Dieu nous demande cela. Dieu demande en définitive qu'une seule chose à l'homme, c'est d'y croire. Voilà. Ou pour le dire d'une autre manière, la grande découverte au travers de ce texte, c'est que tout est don, c'est cela la foi. Amen.